Madame la directrice, Madame la présidente, mes bien chers créditistes, si nous voulons embarquer dans une année de réalisation, il faut embarquer dans une année de travail. Pour embarquer dans une année de travail avec ardeur, il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'œuvre que nous poursuivons. Nous demandons constamment aux créditistes de faire des efforts, de faire du travail, de faire des sacrifices. Il faut qu'ils soient tous bien convaincus que le crédit social, c'est une grande chose. On pourrait en parler pendant des journées, parler de différents aspects du crédit social. Cet après-midi, je vais surtout essayer de faire ressortir un point du crédit social, en touchant légèrement les autres en passant. Le crédit social, c'est la réhabilitation des droits de la personne. C'est restituer la personne dans ses droits. Cela dit beaucoup. Cela dit, il faut donner à chaque personne ce qui est son droit. Pas le donner à un groupe, pas à une nation, pas à une classe, pas à une union ouvrière. Le donner à chaque personne, restituer chaque personne dans ses droits. La personne, c'est beaucoup, parce que chaque personne, vous savez, a une destinée à accomplir, une destinée qui va jusqu'à l'éternité. Mais, pendant qu'elle est sur la terre, il faut qu'elle trouve un climat favorable à l'accomplissement de sa destinée. Et notre travail, à nous les créditistes, se situe justement dans ce domaine-là. Établir un ordre qui favorise un climat, un ordre politique, économique, social, qui favorise l'épanouissement de la personne humaine et sa marche vers sa destinée propre. Nous avons tous une destinée éternelle. Nous sommes appelés à vivre de la vie divine, par grâce, dans le ciel toute l'éternité. Mais chacun de nous a une vocation, a un épanouissement à faire de sa propre personne. Il faut que le climat le permette. C'est pour cela que tantôt, nous occupons par conséquent du domaine temporel, mais sans oublier que la personne qui va vivre dans le domaine temporel est appelée à une destinée éternelle. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être de l'école matérialiste. Nous ne pouvons pas être de l'école communiste. Nous ne pouvons pas être de l'école socialiste qui diminue la personne en faveur du groupe, en faveur de l'État. Quels sont les droits de la personne? Le pape Pie XII, vous verrez, nous venons de faire éditer le syllabaire du crédit social. Ce n'est pas la première édition. Dans le syllabaire du crédit social, pages 46 et 47, nous reproduisons un extrait du discours radiofusé par Pie XII le 1er juin 1941, le jour de la Pentecôte, où il trace justement les droits de la personne dans ce domaine-là. Les biens que Dieu a créés l'ont été pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous, selon les principes de la justice et de la charité. Quand on dit tous, ça excepte personne. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas du crédit social, qui dit à tous et à chacun, qu'ils nous donnent leur formule pour atteindre tout le monde. Les partisans de l'embauchage intégral, en passant, qui nous disent comment ce petit bébé-là va être embauché pour avoir ses droits. Comment le vieillard va être embauché. Comment la femme qui travaille dans la maison à élever ses enfants va être embauchée et faire un salaire. Vouloir régler le problème social rien que par les salaires, c'est faire une fausse route. Le salaire ne peut pas donner des revenus à tout le monde. D'autant plus que le progrès moderne va justement contre diminuer le besoin de salariés. Et l'autre jour, je lisais une phrase du docteur Monahan, qui est à la tête du secrétariat aujourd'hui du Crédit Social, deuxième successeur de Douglas. Et il disait, c'est le conflit entre le progrès et la recherche de l'embauchage intégral, c'est ce conflit-là qui est à la base de l'inflation aujourd'hui. Dès qu'on fait un progrès pour détacher du besoin de l'emploi, on cherche une autre emploi, à faire des armes, à bâtir des usines, à extraire des minerais dont on n'a pas besoin, afin de les occuper. Et tout cela, ce n'est pas des choses pour les maisons, il faut que ce soit payé dans les prix qu'on prête pour les maisons, c'est à la base de l'inflation. Au lieu de nous donner les loisirs pour nous occuper davantage de notre vie culturelle et de la préparation de notre vie éternelle, on veut nous embaucher davantage. Et vous entendez des gens qui se pensent catholiques, qui nous prêchent le catholicisme, et qui viennent nous dire qu'il faut que l'homme soit embauché tout le temps. Il faut qu'il travaille à la sueur de son front. Sans ça, il ne gagnera pas son pain. Je continue la citation du pape. Elle est merveilleuse, vous savez. Tout homme, en tant qu'être doué de raison, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la raison. Il ne dit même pas en tant que chrétien, il ne dit même pas en tant que catholique, il ne dit même pas en tant qu'appelé à la vie surnaturelle, en tant qu'être doué de raison, c'est de l'humanisme ça. Tout homme, en tant qu'être humain, en tant qu'être doué de raison, pas en tant qu'embauché, en tant qu'être doué de raison, en fait de la nature, de sa nature même, tient le droit fondamental d'user des biens matériels de la terre. Tout homme qui a une âme a la raison, hein? La raison c'est l'âme, c'est ce qui nous distingue de l'animal. Tout homme a un droit fondamental aux biens de la terre, rien que parce qu'il est homme, pas pour d'autres choses. Parce qu'il est homme, il a le droit à un droit fondamental au bien de la terre. Quel est mon droit à mon pain quotidien? Mon premier droit, c'est que je suis un homme, que je suis né. Il ajoute après, ce qui n'est pas fait encore, quoiqu'il soit laissé à la volonté humaine et aux formes juridiques des peuples. Les formes juridiques, ce sont les législations. C'est laissé à la volonté humaine, à la communauté, c'est laissé aux législateurs le soin de régler plus en détail la réalisation pratique de ce droit. Mais jamais il ne leur est laissé de nier ce droit, ni de l'empêcher de l'exercer. Des législateurs qui ne reconnaissent pas le droit de chaque personne au bien de la terre, qui mettent des entraves pour que chaque personne puisse les avoir, ces législateurs-là vont contre le droit fondamental de l'homme. Ils ne sont pas dignes de leur mission. Ce sont des usurpateurs. Et je voudrais bien voir où est, dans notre code de loi national, dans notre code de loi provincial, où est l'article de loi qui garantit à chaque être humain dans notre pays, dans nos provinces catholiques, dans les provinces voisines, où est l'article de loi qui garantit à chaque personne qu'elle pourra exercer son droit fondamental d'user des biens de la terre. Le cardinal Léger a fondé à Montréal un hôpital pour les gens qui n'ont pas de place ailleurs, pour les déshérités. C'est une belle œuvre. Il y en a d'autres pour les déshérités. Pourquoi est-ce qu'il y a des déshérités? Qui est-ce qui s'est permis de les déshériter? Pourquoi les appelle-t-on des déshérités? Parce qu'ils ont perdu leur héritage. Quel est leur héritage? Leur héritage, c'est le droit au bien de la terre que le bon Dieu a créé pour tous les hommes. C'est cela. c'est le premier héritage. Et le deuxième héritage, ce sont les progrès qui ont été faits dans toutes les générations passées, dont notre génération présente n'est pas la seule qui l'ait fait. C'est pas elle qui a inventé tout un tas de choses du passé sur lesquelles on s'est basé pour inventer les choses nouvelles. C'est des choses des autres générations. Et pourquoi est-ce qu'il y a un groupe d'hommes sur la terre qui s'empare des bienfaits de toutes les générations et qui nous les donne au compte-gouttes et avec leurs conditions? Pourquoi? De quel droit s'empare-t-il de cela? Le pape dit, selon les principes de la justice et de la charité, il y a une injustice à voler le bien des autres. Il y a une injustice à voler à chacun son droit au bien de la terre. La charité doit venir après la justice pour combler les petits trous que la justice n'a pas pu combler. Quand tout le monde, par exemple, dans le crédit social, aurait son revenu par un dividende qui lui donne droit à une part des biens de la terre, il y en aurait quand même quelques-uns qui auraient des malchances, des maladies, ou bien leur maison brûle, ou bien ils ont un accident. Dans ce temps-là, eh bien, il y a besoin de secours pour eux autres. Là, la charité vient pour finir ce que la justice n'a pas pu faire. Mais des gens qui nous prêchent la charité et qui supportent l'injustice, je ne comprends pas ça. On nous dit, et c'est vrai, que la charité est une vertu théologale et que dans son ordre, elle est plus élevée que la justice, c'est vrai. Mais dans l'ordre de la distribution des biens de la terre, la justice doit venir en premier lieu. Le pape dit de ce droit-là, au bien de la terre, par tout le monde, que c'est un droit imprescriptible. Qu'est-ce que ça veut dire, imprescriptible? Demandez aux avocats, ils savent bien ce que c'est que la prescription. La prescription, ça veut dire qu'après un certain temps, après 5 ans pour certaines choses, après 1 an pour les accidents d'automobile, après 30 ans pour des propriétés, etc., après un certain temps, le droit est prescrit. On n'a plus le droit de le faire valoir. Bien, le pape dit le droit de chacun au bien de la terre, lui, il ne peut pas être prescrit. Il ne peut pas être prescrit par des années. Il ne peut pas être prescrit, c'est-à-dire il ne peut pas être terminé par des années. Il ne peut pas être aboli par des années. Il ne peut pas être effacé par des siècles. Il ne peut pas être effacé par des lois humaines. Il y a des lois humaines qui nient les droits et nous empêchent de l'exercer. Ils ne peuvent pas empêcher le droit d'exister quand même. Le droit existe là quand même. Et c'est cela que nous revendiquons dans le crédit social. Le droit pour chaque personne de pouvoir s'épanouir. Elle ne le peut pas si, premièrement, elle est prise là, avec un cœur qui n'a pas la vie, qui ne peut pas vivre. Saint Vincent de Paul le disait bien, avant de dire à quelqu'un de sauver son âme, de travailler pour son âme, il faut commencer par le mettre dans des conditions matérielles où il peut s'apercevoir qu'il en a une. Des gens qui sont dans des conditions matérielles assimilables à celles des étables et même moins. Ceux-là, comment peut-on bien leur parler de leur âme? Je sais que dans n'importe quelle cachot de prison, dans n'importe quelle misère affreuse, dans n'importe quelle pauvreté, on peut sauver son âme. Le bon Dieu donne encore les grâces là aussi, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile, et le pape le dit bien, c'est plus difficile de faire leur salut dans ces conditions-là. Eh bien, on n'a pas le droit de mettre des conditions difficiles aux gens. On n'a pas le droit de les mettre dans ces conditions-là, à dire, faites des héros, sauvez-vous pareil, tirez-vous pareil, vous piétinez les pieds, mais quand même, sauvez-vous pareil. On n'a pas le droit de faire ça. Si les conditions viennent, on est obligé de les subir, mais on n'a pas le droit de les accepter. Un chrétien n'a pas le droit d'être résigné au désordre, même quand il le subit. Ce droit individuel de chaque personne, dit le pape encore, ne saurait pas être supprimé même par l'exercice d'autres droits certains et reconnus sur des biens matériels. Ça veut dire, voici une personne qui a un droit certain sur sa maison, une autre sur sa ferme, une autre a des droits certains sur son usine. Ce sont des droits certains et des droits reconnus. Ils sont certains, ils sont reconnus, ils peuvent subsister. Mais cela n'empêche pas l'autre droit fondamental, le droit de chaque personne à une part des biens de la terre. Et d'abord, qu'est-ce que nous disons, nous, dans le crédit social? Est-ce que nous demandons d'enlever la propriété à celui qui l'a? Pas du tout. Nous demandons d'enlever aucune ferme à aucun cultivateur, aucune usine à aucun patron, mais nous demandons de permettre à chacun, à chaque personne, de se procurer des biens qui sortent de cette usine, qui sortent de cette ferme, et le propriétaire de l'usine et le propriétaire de la ferme seront les premiers contents si leurs produits s'en vont dans les maisons de tout le monde. Ils seront les premiers contents. C'est une formule merveilleuse que le crédit social, qui respecte la propriété des moyens de production à ceux qui les ont et qui donne quand même à tout le monde un usufruit sur ce grand capital que le bon Dieu a créé et que les hommes ont développé. L'usufruit, ça veut dire le droit aux produits. Ils ont le droit, mais pour avoir de l'ordre, on n'a pas le droit de les prendre comme l'on veut. Ici et là, il faut présenter, dans notre monde moderne, présenter un droit imprimé ou un droit inscrit sur une feuille de papier qui s'appelle argent. C'est le droit. Le droit, c'est l'expression du droit. Le droit existe. Il est conféré par Dieu à notre nature. Le droit imprimé doit nous être donné en rapport avec ce droit réel qui existe et en rapport avec la capacité de production du pays d'y répondre. Dans le crédit social, justement, on fait cette grande distinction, c'est Douglas qui l'a faite pour la première fois, entre le crédit réel d'un pays. Le crédit réel d'un pays, c'est tout ce que le pays peut fournir pour répondre aux besoins. Et le crédit financier, c'est l'argent pour exprimer ses besoins. Et il dit, il faut un rapport d'égalité, un rapport de proportion, un rapport de permanence, de stabilité entre le crédit financier et le crédit réel. Le crédit réel est fait par qui? Par qui est faite la capacité de production du pays? Le premier grand facteur, le premier grand agent, le premier grand auteur du crédit réel, c'est le bon Dieu. S'il n'avait pas fait la terre avec tout ce qu'elle a dessus et dedans, avec les forêts et leurs gibiers et leurs arbres, avec les rivières et leur eau, avec la mer et avec le soleil qui la pompe et avec les montagnes qui font qu'il y a des chutes d'eau et qu'on peut avoir des forces, avec toutes les forces connues déjà par l'homme, avec toutes les forces inconnues et qu'il a mission de trouver, c'est sa mission, l'homme l'a dit à Adam, même après son péché, domine la terre, sans péché, mais domine la terre, arrange-toi pour la dominer pareil, trouver les forces, on découvre aujourd'hui des forces nouvelles, les forces atomiques, les forces nucléaires, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait quand il découvre ces forces-là? La première chose qu'il fait, au lieu de rendre hommage à Dieu et d'exercer le droit de tout le monde au bien de la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait des bombes pour jeter sur ses frères humains puissants, glorifier à qui en fera le plus. Là, c'est un grand blasphème contre la magnificence de Dieu. Et c'est en même temps un grand gaspillage du crédit réel. Tout ce qui dans notre pays, dans les autres pays, va à la fabrication de ces choses qui sont rien que pour la destruction et d'autres choses qui sont rien que pour la perdition des hommes Et d'autres choses qui sont du luxe inutile quand il y a deux tiers de l'humanité qui ne mange pas à sa faim. Tous ceux qui fabriquent ces choses-là, qui travaillent à ça, gaspillent le crédit réel du pays. Ils nous prêchent l'épargne, ils nous prêchent d'épargner, ils sont les plus grands gaspillateurs du monde, ceux-là. En passant, je lisais l'autre jour encore un discours de M. Raoul Follereau. Raoul Follereau, c'est le grand missionnaire des lépreux. C'est pas un missionnaire avec une soutane, c'est pas un homme non plus qui travaille dans les léprogeries. C'est un homme qui parcourt le monde pour intéresser les gens aux sœurs des lépreux. Il nous dit qu'il y a 10 millions de lépreux dans l'univers. Aujourd'hui, grâce aux découvertes de certains sulfats, ça ne prend que l'équivalent de 3 piastres de remède pour pouvoir arrêter la lèpre d'un individu qui en est frappé, le rendre sa maladie non plus contagieuse, il peut vivre avec le reste de la société, il est réhabilité avec la quantité de lèpre qu'il a, mais pas contagieuse. Ça prend que 3 piastres par personne. La dernière guerre, dit-il, on a calculé que d'après le nombre de morts, chaque cadavre coûtait 50 000 $. Avec chaque cadavre qu'on a fait pendant la dernière guerre, on aurait pu sauver, changer la vie de 16 000 lépreux. Et on a fait des millions de cadavres. Il y aurait eu de quoi nourrir, de quoi changer bien des fois la vie de tous les lépreux du monde. Et il disait, quand je pense à cela, et quand je me rappelle d'avoir vu des bras de lépreux tendus vers moi, avec plus de mains, la main partie mangée par la lèpre, puis rien qu'un moignon voyant encore la peau tendre. Ça, j'ai encore ça devant les yeux. Et quand j'y pense, tout le gaspillage qui se fait dans l'univers, pour la guerre, pour la destruction, et par des chrétiens contre des chrétiens, les deux tueries abominables de notre génération, ont été faites par des nations chrétiennes, par les nations chrétiennes d'Europe. Et les nations chrétiennes d'Amérique se sont empêchées, empressées d'embarquer là-dedans pour tuer d'autres chrétiens. Et on dit que c'était pour sauver la civilisation et la chrétienté. On a fait un carnage épouvantable pour venir à un désordre effrayant. Comment est-ce qu'il fait que le bon Dieu a la patience encore de ne pas détruire le monde? Il est bien miséricordieux, il vous assure. Mais sa patience, des fois, est poussée à bout. Et quand on vous parlait tout de suite de faire la volonté de Dieu en faisant le crédit social, en travaillant à réhabiliter la personne dans ses droits, c'est bien conforme au plan de Dieu. Mais les grandes choses que font les grands du monde aujourd'hui, ceux qui gouvernent les nations, ceux qui mènent les peuples, ceux qui font les traités, ceux qui font les alliances, ceux qui font les conscriptions, ceux qui font les programmes militaires, ceux qui font l'éducation militaire dans nos écoles, même s'ils portent des soutanes sur le dos, ils ne sont pas dans le plan de Dieu, ceux-là. Les politiciens aiment à chanter la prospérité du pays en calculant les statistiques de production. Il ne calcule pas les statistiques de souffrance qu'il y a dans les maisons. Il n'y a pas de statisticien pour faire cela. Mais vous, créditistes, qui faites du porte en porte, vous avez pu voir dans combien de régions, même de notre province de Québec, qui est pourtant dite une province riche, dans des districts de l'Ontario, qui est une province riche, dans d'autres districts de toutes les provinces, vous avez pu voir bien des misères, bien des souffrances. L'humain, là, non, la loi, le règlement, mais l'humain, ah, la loi n'a pas prévu cela. Il y a des lois pour les droits de l'argent. Si vous ne remplissez pas vos obligations financières, votre créancier vous traduit en cour, et la cour lui donnera raison. Elle séduira vos biens si vous en avez. Elle séduira votre salaire si vous en gagnez pour rencontrer les droits de l'argent. Je ne critique pas ces actes-là. Je dis qu'il y a des lois pour protéger les droits de l'argent. Mais il n'y en a pas pour protéger le droit de la personne humaine au bien de la terre, à son bien. Il n'y en a pas. Il est temps qu'il y en ait. Le pape, qui est le vicaire de notre Seigneur sur la terre, qui est par conséquent le premier représentant du Christ, qui est là à Rome pour tout l'univers, à la place du Christ qui est rendu invisible sur la terre et qui est dans le ciel, le pape, lui, ne dit pas qu'un pays est prospère quand il y a beaucoup de bien dans le pays. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit, la richesse économique d'un peuple ne consiste pas proprement dans l'abondance des biens mesurés selon un calcul matériel pur et simple de leur valeur. Ça vaut tant, total tant, donc le pays est riche. Il dit, ce n'est pas ça la vraie richesse, mais bien dans ce qu'une telle abondance représente et fournit réellement et efficacement comme base matérielle pour le développement personnel convenable de ses membres. La prospérité non distribuée n'est pas une prospérité. C'est la prospérité distribuée. Et j'ai hâte d'entendre les politiciens chanter la prospérité distribuée à chaque personne, à chaque famille. Ça n'est pas fait encore. Ça. Il ajoute, si une telle distribution, remarquez bien, le problème de production est réglé, au moins dans nos pays et dans une bonne partie des pays de l'univers, si une telle distribution des biens n'était pas réalisée, ou si elle n'était qu'imparfaitement assurée, si elle n'est pas parfaitement assurée, il faut qu'elle soit parfaitement assurée, si elle n'est qu'imparfaitement assurée, le vrai but de l'économie nationale ne serait pas atteint. L'économie nationale doit assurer parfaitement, le mot est là, il faut qu'elle soit parfaitement assurée, la distribution à chaque personne. Ou bien l'économie nationale n'est pas bonne, le but n'est pas atteint. Étant donné, dit-il, que quelle que fût l'opulente abondance des biens disponibles, le peuple n'étant pas appelé à y participer, ne serait pas riche, mais pauvre. Peuple pauvre, en face d'une abondance de richesses. On connaît ça. Tant que ce n'est pas distribué, le peuple est pauvre et on n'a pas le droit de dire que la prospérité règne. Le pays est riche, oui. Eh bien, c'est une accusation contre vous parce que le peuple est pauvre et le pays est riche. Vous êtes coupable. Si le pays était pauvre et le peuple pauvre, eh bien, on dirait c'est nécessaire de supporter ça en attendant qu'on ait mieux. Mais quand la prospérité règne, quand on a 640 millions de boisseaux de blé des récoltes précédentes dans les entrepôts, dans les silos, et qu'on va rajouter la récolte de cette année qui va dépasser le milliard en tout, là, quand on a cela, et qu'on se pomme de détresse devant ça, quel problème? Voilà le premier problème qui a occupé Diefenbaker. Il faut aller à Londres parce qu'on a trop de blé au Canada. Il faut tâcher de trouver une place pour mettre du blé. C'est un drôle de problème que celui-là, hein, le problème de la distribution. Messieurs, où que vous soyez, à Ottawa, à Washington, à Londres ou ailleurs, où que vous soyez, cette richesse accumulée, ce blé accumulé, qu'il soit accumulé dans les silos canadiens, dans les silos américains, dans les silos français, n'importe où sur la surface de la planète, ce blé-là, c'est le pain de ceux qui ne mangent pas, il leur est dû à cela. Hein, pas le droit de le garder. Mais il faut le vendre, il faut conserver les prix. Autrement, si on en donne, le marché va crouler, les producteurs ne sont pas récompensés. Cela, c'est des problèmes strictement financiers. C'est des problèmes de comptabilité. Et vous n'avez pas le droit de laisser souffrir le tiers de l'humanité à cause de simples problèmes financiers, à cause de simples chiffres. Je me demande si des fois, l'archange qui a gardé le paradis terrestre avec son épée flamboyante pour que Adam n'y retourne pas n'a pas envie de descendre sur la terre avec son épée flamboyante et puis d'envoyer avec leur maître les démons des gens qui mettent le monde en pénitence comme ça sur toute la surface de la terre. S'il ne le fait pas, c'est parce que le bon Dieu est patient. Il a son heure, il attend. Et en attendant, des gens souffrent. En attendant, du monde est obligé d'être privé, sans nécessité. Mais Dieu merci, il y a au milieu de cet univers, au milieu de ce monde-là, qui oublie ses devoirs, il y a des gens qui voient ça et qui ont l'intention de faire leur part. Et vous en êtes, vous les créditistes, et vous félicitez. Et quand je vous disais tout à l'heure que, au lieu de distribuer les biens de la terre aux gens, on tourne le crédit réel, la capacité de production, vers des moyens de destruction. Et on dirait que nos plénipotentiaires, nos diplomates et puis tous ces gens-là n'ont rien qu'un but. Montrer qu'il existe une difficulté ici et là, il faut s'armer. L'autre côté, il faut s'armer, il faut s'armer. Il y a du feu là-bas, il faut s'armer ici. On fait tout ce qu'on peut pour provoquer des désordres quelque part, des désordres aussi, du pétrole ou aussi n'importe quoi, pour pousser après le monde à s'armer. Ça ressemble, il y a des petits groupes qui ressemblent à ça, à notre pays, qui sont à pousser des grèves ici, des grèves là, et puis le monde ouvrier est en ébullition, alors armons-nous pour la révolution. C'est pas dans l'ordre cela, c'est pas dans l'ordre. Bien le pape nous dit que, si au contraire, on estime à sa valeur exacte le but de l'économie nationale, c'est-à-dire si on distribue à chacun sa part, alors celui-ci, le but de l'économie nationale, deviendra une lumière pour les hommes d'État, pour les efforts des hommes d'État et des peuples. Elle les éclairera pour s'engager spontanément dans une voie qui n'exigera plus de continuels sacrifices de biens et de sang, mais qui portera des fruits de paix et de bien-être général. Ça veut dire cela que si on veut éviter les boucheries, les tueries, les suppressions de biens, le communisme, les crises internationales, les guerres internationales, si on veut éviter cela, distribuer les biens de la terre, tout cela va se régler. On portera des fruits de paix et de bien-être général. Alors, quel est le remède à tous ces désordres, à toutes ces choses cataclysmiques qui me convoient poindre à l'horizon, à toutes ces affaires entre les peuples qui nous promettent la destruction, la mort et autre chose, qui nous effraient de voir? On se demande qu'est-ce qui va arriver. Quel est le remède à cela? La distribution des biens de la terre, de façon à ce que tout le monde en ait. Sans égard à l'âge, sans égard au sexe, sans égard à l'intelligence, sans égard même à la vertu des hommes, les bons, les mauvais. Est-ce que le soleil lui parle pour tout le monde? Sans égard à la couleur de la peau, sans égard au peuple. Les biens de la terre ont été créés par Dieu pour tous les hommes. Il n'a pas mis dans chaque petit coin tout ce qu'il faut pour ceux qui vivent dans ce petit coin-là. Il n'a mis d'autres dans d'autres coins pour d'autres. Et puisqu'ils n'ont besoin, nous avons plus de choses que ce que nous avons besoin de certaines choses. Mais il y a des moyens de communication de plus en plus perfectionnés. Aujourd'hui, on peut connaître les besoins d'une région ou bien d'un endroit dans l'espace d'une fraction de seconde. Et on peut porter secours aussi rapidement que les moyens de transport, par les bateaux, par les chemins de fer, par l'automobile, par l'avion. Il y a moyen de distribuer les richesses de la terre. Il y a moyen de rendre le monde meilleur. Mais quand on ne sait même pas le faire au-dedans des frontières d'un pays, quand on laisse des familles, même de notre Canada, dans la privation, dans la misère, en face de biens qui s'accumulent dans les magasins, dans les entrepôts, qui jettent du bien des moments de chômage, en face de production désordonnée, déviée vers d'autres choses, quand on fait cela, comment peut-on penser, comment ces gens-là qui mènent ça peuvent-ils avoir des horizons assez grands pour distribuer les biens de la terre à l'univers? Faut commencer par mettre de l'ordre chez soi. Ce qui n'empêche pas de commencer à distribuer partout, mais il faut commencer à mettre de l'ordre chez soi. Et s'il y avait le crédit social établi dans un pays, avec cette distribution automatique, allant à toutes les personnes, d'une part des biens de la terre, en respectant la propriété, l'initiative de chacun, chacun quand même pourrait faire valoir sa propre personnalité. Si l'on avait ça, ce serait contagieux. Tous les autres pays le voudraient. Au lieu d'avoir une course aux armements, il y aurait une course au crédit social. Ce serait bien plus intéressant. Cela viendra-t-il? Et quand cela viendra-t-il? Pourrait répondre comme notre Seigneur répondit à ses apôtres. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, c'est le secret de mon Père Céleste. C'est sa volonté qui mène. Mais vous, vous avez à me suivre, qu'il disait. Vous avez à marcher dans mes pas. Vous avez à faire votre part. Vous avez à faire votre vocation. Nous avons ici, dans la salle de grands travailleurs, d'autres qui sont un petit peu moins. Je ne voudrais pas dire qu'il y a dans la salle qui sont à peu près nuls, ou qui ne font presque rien. Mais il y en a beaucoup dehors, des créditistes, qui ne font rien. Et il y a un autre monde qui n'est même pas créditiste, qui fait moins que rien, qui voudrait bloquer la grande croisade de la libération de la personne humaine. Qu'est-ce qu'on va faire en face de tout ça? Vous au moins qui êtes ici dans la salle, êtes-vous prêts à faire tout ce qui dépend de vous, au maximum de votre temps et de vos forces? Je ne dis pas que vous pouvez être tous sur la route pour le crédit social, mais chacun de vous peut faire une chose en particulier. Personne n'a le droit de faire rien. C'est beau de condamner ceux qui, tenant les leviers de la législation, ou bien les leviers de commande d'ailleurs, ne font rien. On doit les dénoncer. Mais ne peut-on pas dénoncer soi-même, surtout quand on est créditiste, et qu'on ne fait rien, ou bien qu'on met tant d'autres choses en avant du crédit social? Nous avons tout à l'heure couronné ici, ou médaillé sur l'estrade, des créditistes qui ont fait de bonnes choses, de grandes choses. Parmi eux, il y avait un groupe particulier, celui des missionnaires plein temps. Missionnaires actuels, missionnaires anciens, qui ont donné au moins une année de leur vie, la plupart plusieurs années, les 25 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pourquoi est-ce que tous nos jeunes gens, Canadiens, Français, qui ont le sang de Canadiens, Français dans les veines, qui sont les fils des saints qui ont fait le Canada, qui sont des catholiques, qui ont le privilège de n'être pas enrôlés pendant 2 ou 3 ans de leur vie par la conscription obligatoire comme dans d'autres pays. Pourquoi ces jeunes gens-là, avec toute cette richesse intérieure qu'ils ont de leur religion et celle qui leur vient en-dessus par-dessus le marché du crédit social, et avec ce privilège d'avoir toutes leurs années à eux, de ne pas avoir à porter les armes pendant 2 ou 3 ans en service militaire, pourquoi ne donnent-ils pas ce temps-là, ces 2 ou 3 ans-là au moins, de leur jeunesse, au crédit social? Pourquoi? Vous dites, je prépare mon avenir.
Ceux qui sont appelés à l'armée pourraient dire pareil au gouvernement, je prépare mon avenir. Viens, tu viens pas en prison, tu ne le prépareras pas là non plus. Vous êtes dispensés de cela dans le pays, dans le Canada. Ça vous impose un devoir, jeunes gens. Vous n'avez pas le droit de prendre toute votre jeunesse pour vous-même. Vous n'avez pas le droit. On ne vous demande pas d'être plein temps toute votre vie. Vous aurez à vous marier un jour. Certainement. Mais quand on prend quelqu'un plein temps, encore une fois, pour 2 ou 3 ans de service militaire, quand c'est pas pour 6 années de guerre, là, et qu'on vous avait ce temps à vous, vous êtes capable de donner du temps au crédit social. Après tout, c'est surtout votre avenir à vous, les jeunes qui ont bâti dans le crédit social. Je ne vais pas dire que nous, les personnes plus âgées, nous regrettons de travailler et de ne pas avoir le crédit social pour nous-mêmes. Ça ne nous fait rien. Quand même qu'on devrait travailler jusqu'au dernier jour de notre vie et ne pas avoir le premier dividende, nous continuerons pareil jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais tout de même, la jeunesse qui pousse, vous n'avez plus, vous avez des réalisations à voir devant vous. C'est surtout pour vous qu'on bâtit. Allez-vous pendant ce temps-là être indifférent, puis garder à vos petites affaires, essayer de gagner plus d'argent, mettre un petit magot de côté, aller le dépenser avec ma blonde à la fin de semaine, recommencer la semaine après, etc. Votre blonde sera bien meilleure dans 3 ou 4 ans d'ici si vous donnez plus mal. L'abbé Pierre le dit, si la jeunesse n'est pas capable de donner 2 ou 3 de ses années aujourd'hui pour une œuvre, par exemple pour bâtir des logements comme il fait au bout d'autres œuvres, eh bien, le monde est triste. Le monde est triste. À dire, pourquoi est-ce que je fais cet appel-là? Mais c'est une détresse de voir que le peu de monde, le peu de jeunes gens, qui se donnent tout entier à une œuvre, un bout de temps de leur vie. Et d'autres qui s'en donnent tout le temps de leur vie, tout le temps pendant quelques années de leur vie, ne donnent même pas les fins de semaine. Il y a de bons jeunes gens dans cette salle qui devraient être avec l'armée des plaintants, avec l'armée des missionnaires. Il y a un champ d'action vaste comme l'univers pour vous. Il y a tout le Canada, il y a toute la France, il y a la Belgique pour ne pas sortir des pays français. Il y a la Suisse. Il y a bien d'autres pays où l'on parle français dans les Antilles. Et vous êtes capable d'apprendre l'anglais quand vous êtes jeune. Et ça vous ouvre encore d'autres pays. Et vous êtes capable d'apprendre l'espagnol quand le temps sera venu. Et ça vous ouvre toute l'Amérique du Sud, sauf le Brésil. Et vous êtes capable d'apprendre le portugais, puis d'autres langues, l'italien, etc. Les missionnaires font bien ça, eux autres, là. Et si vous aimez votre crédit social, vous, jeunes gens, venez donc grossir les rangs des plaintants. Qu'on puisse couvrir d'un réseau de missionnaires tous les pays du monde, à commencer par les pays de langue française au moins. Ce sera en même temps le meilleur moyen de développer votre personnalité. Je vous assure qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a donné plusieurs années de sa vie tout entier au crédit social, parcourant son pays, quittant ses repas, quittant son coucher, travaillant, suivant des programmes, traînant son linge avec lui, gardant quand même son idéal, sa gaieté, allant aux portes, ne se laissant pas rebuter par l'apathie, par l'indifférence, par n'importe quoi. Et d'autres jeunes gens qui ont fait leur petit mode de vie tranquillement, pourvu que je me tire d'affaire, moi, que les autres se tirent d'affaire. Il y a une grosse différence, bien sûr, entre les deux. Une grosse différence. Ça développerait votre personnalité. Ce sera en même temps, jeunes gens, qui donneraient votre temps au crédit social. Plein temps, si vous le pouvez. Cinq semaines, si vous ne pouvez pas. Et les hommes aussi. Ce sera en même temps une expiation pour la foule, pour le désordre de la foule de jeunes gens qui tous les samedis soirs dans nos grandes villes s'en vont dépenser au moins le tiers de leur salaire de la semaine dans des grilles. Pour sortir le matin, pas pour adorer Dieu, ils ont le diable dans leur âme. Ils sont plus souillés en sortant de là qu'en y entrant, comme de raison. C'est pas une place pour faire de la vertu, cette grille, ni les autres maisons de désordre. Il y a des expiations qui sont nécessaires. Le bon Dieu les cherche. S'il avait dit juste à Sodome et Gomorre, les deux villes n'auront pas été détruites. Elles n'auraient pas été détruites. Il n'y en avait pas 10. Prenons garde qu'il n'y ait pas assez de jeunes gens, pas assez d'hommes, pas assez de femmes pour faire leur devoir au milieu de tout ce monde de désordre, d'impureté, de matérialisme qui nous environne, même dans nos pays catholiques et encore plus dans les autres. Prenons garde qu'il n'y en ait pas assez et que les vengeances de Dieu tombent. C'est pas beau de penser à cela. Il y a moyen de faire mieux, mais ça dépend de nous. Il faut prier, oui, et vous l'avez fait un matin. Mais dans notre travail à faire, Anne d'Arc priait, mais elle faisait son travail. Ne se contentez pas de prier. Ceux qui se réfugient dans la prière, ce n'est pas une bonne prière qu'ils font. C'est l'évasion de leur devoir. Ce n'est pas pareil. Vous, créditistes, vous comprenez ça. À dire que je parle dur, je ne fais de reproche à personne. Ce sont des appels, des invitations, des invitations. On voit quand on regarde l'ensemble de l'ouvrage qu'il y a à faire. Et les moyens, à part du personnel humain, que nous pourrions mettre entre les mains de ces personnes pour faire cet ouvrage-là. Nous ne sommes pas circons, nous ne sommes pas arrêtés par des petits moyens financiers, ni par des petits moyens humains. Nous sommes arrêtés par le manque de personnel humain, par le manque de personnes. Quand nous voyons tout le grand champ d'action qu'il y a à faire, et le peu d'ouvriers qu'il y a, on est en train de dire, la moisson est grande, où sont les ouvriers? Cet appel-là va vous être répété aujourd'hui. Pas rien qu'aux jeunes, les autres vont avoir d'autres appels aussi. Tout le monde a quelque chose à faire dans la grande œuvre de la libération de la personne humaine. C'est une croisade. La croisade s'adresse à tout le monde. Même les malades qui sont couchés, qui ne peuvent pas bouger, peuvent au moins prier et offrir leur souffrance. Mais vous qui avez des jambes, qui avez des bras, qui avez une langue, qui êtes capable de vous déplacer, capable de parler, qui avez de la santé, vous avez un travail qui va vous à faire. Et l'Institut d'Action Politique va mettre devant vous tout un échelon d'objectifs, de choses à entreprendre. Chacun les prend à la mesure de son cœur créditiste, à la mesure de ses capacités. Et puis, s'il faut avoir de l'humilité, s'incliner devant le bon Dieu, lui demander de nous aider, lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait de bien, il ne faut pas tomber dans la pusillanimité. Ça n'est pas de l'humilité, ça. C'est du respect humain. C'est de l'orgueil. C'est une forme d'orgueil, c'est la pusillanimité. Oh, moi, je suis pas capable. C'est de l'orgueil, ça. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Tout le monde est capable de rien quand il vient au monde. Mais quand il vient au monde, après ça, ils se rendent capables en faisant quelque chose. Vous êtes capable. Tout le monde est capable de faire quelque chose immensément plus que ce qu'on a fait dans le passé. Et si ça vient, ça, si de ce congrès-ci sort ce travail-là, ce travail de personne. On a parlé de la réhabilitation de la personne dans ses droits. Mais pour réhabiliter la personne dans ses droits, il faut mettre des personnes dans leurs devoirs aussi. Des personnes, des individus personnellement. C'est un travail personnel. Et quand j'ai écrit dans le dernier journal de l'avant-dernier l'article « Je et on », je l'ai écrit justement en vue de ce que je vous dis aujourd'hui. On fait rien, je fais. Nous, c'est je plus je. C'est chacun. Tout le monde a un je, et tout le monde des objectifs. Et des objectifs qui vont s'accomplir avec des programmes bien définis. Et alors, ça sera vraiment le congrès de l'explosion et une année immense de progrès pour le crédit social. Merci.